jamais les siens. Sans faire ma volonté, c'est une seule maquette. Nous croyons que chaque homme de nous va le trouver comme je le parle. C'est notre maquette, nous disposons nos cœurs. Je ne m'en que je puisse apporter ces noms de bas. Ce qui est précieux, ce qui est valable, ce que le monde ne peut pas donner, c'est là. Merci encore. Tu es merveilleux. Merci de disposer nos cœurs. Merci, Seigneur, d'utiliser tout ça dans sa victoire.
Hallelujah. À chaque instant, tu mérites, Seigneur, la révérence. Tu mérites l'action de grâce.
Maître des tempêtes de nos vies. À quelle image
savons-nous le comparer? À quel pouvoir allons-nous l'égaler? Ce Dieu mystérieux qui nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire lui-même. Ô Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de tout recevoir. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons t'offrir un culte. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons t'offrir, Seigneur, nos actions de grâce. Tu nous as appris et tu nous enseignes encore que nous rendons grâce à celui qui nous fait grâce. Et ce matin encore, nous avons été témoins de la manifestation de ta grâce par ce souffle de vie qui est en nous. Seigneur, nous n'avons aucun mérite, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Comment ne pas aimer et apprécier la grâce de Dieu? Comment ne pas apprécier l'auteur de cette grâce? Celui qui nous réunit en ses lieux, celui qui nous rassemble en assemblée en ses lieux. Oh, nous bénissons le mystère de ta présence, que nous saisissons par la foi, Seigneur, non pas par nos émotions, parce que tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui vis éternellement. Père, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne peux rien donner, Seigneur, tu sais. Mais je te demande une seule faveur ce matin. Rends-moi utile, Seigneur, pour un homme. Rends-moi utile pour une femme qui est venue en ces lieux. Non pas pour perdre son temps. Non pas pour écouter, Seigneur Dieu, la voix d'un homme et la voix de Dieu à travers un instrument humain. Alors parle, les serviteurs, écoute. Ce matin, que l'honneur et la gloire reviennent à celui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Rédempteur. Que son nom soit encore une fois béni ce matin et que ton peuple puisse encore une fois glorifier ton nom et nous dire tous Amen, 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 Amen. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Est-ce que tu peux nous dire tu es bon endroit ce matin?
Je suis bon endroit ce
matin. Oui. Je veux que. C'est mon fils, tu vas m'accompagner légèrement avec un bon musical, s'il te plaît. Tu es bon endroit ce matin. Le Seigneur a une parole pour vous. Il y a des choses qui étonnent les hommes. Mais je crois que le Dieu que nous prions n'est étonné par rien du tout. Dans son agenda divin, il savait qu'aujourd'hui nous serions tous ensemble en ces lieux. Rien ne l'étonne, rien ne l'impressionne, rien ne le surprend. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors, j'aimerais partager la parole du Seigneur. Le grand thème ou bien la grande pensée de cette journée, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce matin, je vais commencer par parler de la première partie, c'est-à-dire comprendre Christ. C'est fondamental. Souvent, vous savez, nous bâtissons des ministères, nous bâtissons des actions, des activités, nous bâtissons même une vie chrétienne sur un fondement quelquefois qui n'est pas correct. L'Ancien Testament et toutes les lois qui sont là-dedans, ce sont ce que la Bible appelle l'ombre des choses à venir. Et la réalité de cette ombre se trouve dans la personne de Jésus. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à comprendre qui est Christ. Parce que si vous restez dans l'ombre, frères et sœurs, vous n'aurez pas la bonne perception des choses de Dieu. Parce que l'ombre, comme je le dis, une ombre, votre propre ombre, ne vous donne pas toutes les informations sur vous. Lorsqu'on regarde l'ombre d'une personne, on voit juste la forme. L'ombre ne vous donnera jamais les détails sur cette personne. L'ombre ne vous donnera jamais la couleur de ses vêtements, parce que ce n'est que l'ombre. L'ombre est dans le à peu près, il ressemble, il est un peu comme ça. Ça, c'est l'ombre. Mais la réalité, lorsqu'elle est là,
il n'y a plus à discuter. Parce que la réalité te donne la forme exacte. La réalité te donne les couleurs exactes. Et nous avons la réalité qui est Christ. Et ce Christ-là, la Bible déclare justement dans le texte de Colossiens 1, 27, que c'est un mystère. C'est un mystère, le mystère caché de tout temps. C'est un mystère. Et c'est un mystère pour qui? Pour les païens, dit la Bible. Donc ça veut donc dire quelque part que Dieu, dans son amour, n'avait pas oublié les peuples qui n'étaient pas Israël. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu, dans son amour, avait une pensée. Dieu, dans son amour, avait un projet. Dieu, dans son amour, avait un plan. Et ce plan-là, c'est que Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu, devait habiter dans l'homme. Mais pas dans n'importe quel homme. Il dit ça commence par le païen, c'est-à-dire que c'est un mystère pour les païens. Dans l'ancien temps, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Dans l'ancien temps, Dieu choisissait certaines personnes sur qui mettait son esprit. L'esprit venait, l'esprit partait. Mais la Bible déclare avec Paul que c'est un mystère. Un mystère que les anciens, là, les David, les Samson, toutes ces personnes n'ont pas pu expérimenter. Parce que c'est un mystère caché. Dieu l'avait caché pour le révéler au temps fixé par lui-même. Et ce mystère, il déclare, c'est Christ en vous. Et c'est de ça dont on va parler. On va lire certains passages de la Bible pour comprendre ce Christ-là. On va commencer par Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 nous parle de Christ, mais nous donne une dimension de Christ qui est très importante. Jean chapitre 2, c'est le fameux mariage de Cana. La Bible déclare, trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez donc ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que sa parole soit bénie. Voilà Jésus qui va être invité à un mariage. Et la Bible dit que c'est lors de ce mariage qu'il va faire son premier miracle, bien sûr, à Cana en Galilée. Et ce premier miracle de Jésus à Cana en Galilée est riche, riche en enseignement pour le monde. La Bible nous dit que pendant ce mariage, il va se passer un accident ou bien une situation, il ne va plus avoir de mal. Et comme le vin va manquer, sa mère va se tourner vers son fils pour lui dire, il n'y a plus de vin. Jésus va dire à sa mère, bien sûr, qu'y a-t-il en toi et moi, mon nom n'est pas en toi. Maintenant, lorsque sur la montre du Seigneur, l'homme était arrivé, il va dire, il va poser des actes qui vont nous parler très fort. Il va demander qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition. Et on lui dit que bien sûr, il y a des vases qui servaient à la purification des Juifs. Et la Bible dit qu'il y avait combien de vases? Il y en avait 6, il n'y en avait pas 4, il n'y en avait pas 3, il n'y en avait pas 2, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 7, il y en avait 6. La Bible, lorsqu'elle donne des précisions, ça a tout un sens. 6 vases, et en plus, la Bible précise, ces vases étaient des vases d'argile, mais des vases de pierre, qui étaient destinés à la purification, c'est-à-dire à un usage vil. Maintenant, Jésus, puisqu'on parle de lui qui est le Christ, il va prendre donc, il va donc demander ces fameux vases, et l'action qu'il va mener, il va changer, parce que dans ces vases, avec quoi il faut les remplir de l'eau dans des vases de pierre. 6 si c'est le chiffre de l'homme, de cette humanité imparfaite qui est pécheresse, qui est sans Dieu. Et l'eau est renversée dans les vases. Et la Bible déclare que nous sommes comme des vases entre les mains de Dieu. Donc en fait, ça parle de nous. Mais ça parle de nous avant de rencontrer Christ. La vie de l'homme, comme l'eau. L'eau n'a pas d'odeur. L'eau n'a pas de couleur. L'eau n'a pas de goût. La vie de l'homme sans Christ est une vie qui n'a pas de sens. En vérité, celui qui n'a pas Christ, sa vie, elle est comme ça. Comme l'eau. À un mariage, à la table d'honneur, la boisson la plus importante, c'est pas l'eau. Donc, l'eau en question était juste pour laver les pieds et les ablutions. C'était même pas quelque chose qui devait venir sur la table d'honneur. Parce que ce n'était que de l'eau. Mais dans le plan de Dieu, quelque chose devait se passer avec cette eau qui n'était réservée qu'à un usage vil. Laver les pieds, les mains, le visage. Et lorsque Christ, son heure va arriver, lorsqu'il viendra manifester justement sa gloire, il va opérer justement un changement. La seule personne capable de changer la vie des hommes, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la religion, c'est un homme appelé Jésus. Lui seul est capable de nous faire passer d'un état à un autre état. Les choses qui nous entourent, la philosophie, la religion vont essayer de rajouter, vont essayer de rafistoler. Mais personne ne peut changer le cœur de l'homme si ce n'est lui-même le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui n'avait pas une odeur, il va commencer par lui donner une odeur. Ce qui n'avait pas une couleur, reçoit de la couleur. Ce qui n'avait pas de goût, de saveur, reçoit de la saveur. Et la place, la position, l'utilité va changer. De l'eau qui servait à nettoyer les pieds se retrouve à la table d'honneur, mais changée, transformée en vin. Changement de statut, changement d'utilité, changement d'utilisation. Qui est capable de changer la destinée des hommes si ce n'est que Christ? Aucune destinée ne peut être changée sans l'intervention divine de celui qui peut changer l'eau en vin. Changer ce que la philosophie, l'éducation, la morale, la religion ne peuvent changer. Mais lui, il a le pouvoir de changer ça. Ce Christ-là qui est venu avec ce signal très fort pour dire je suis venu apporter le changement. Je suis venu changer votre statut. Vous étiez certainement d'un usage vil. Peut-être que votre vie n'avait pas de sens. Peut-être que vous vous sentiez inutile. Mais lui dit que je suis capable de faire une chose inutile, une chose utile.
Amen.
La Bible déclare que c'est bien notre Dieu qui prend de la poussière des choses qui perdent des indigents. Il est fait à avec des grands.
Amen.
Et que Dieu qui peut faire ça. Nous aspirons tous dans le cœur humain, nous aspirons tous au changement. Nous voulons tous des transformations, nous voulons tous avancer dans la vie. On veut tous le progrès. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas être possible sans Christ. Il a changé l'eau en vin. La Bible ne dit pas qu'il a ajouté le sucre. Hein. Il a changé. Il a changé. Ce Christ-là, c'est ce qui change les destinées. Vous savez pourquoi? Parce que dans chacune de nos familles, il y a des destinées. Et lorsque vous naissez dans vos familles, là, vous n'avez pas choisi vos familles. Lorsque vous naissez dans vos familles, vous subissez les conséquences des alliances de vos parents. Ce qui fait que lorsque vous naissez dans vos familles, vous êtes influencé par les destinées de ces familles-là. Rien ne pourra vous changer de route. Parce que ce sont des alliances qui sont scellées. D'où vous avez ces fameuses familles où les femmes ne doivent pas mettre au monde, on ne met pas au monde. Où il n'y a pas de mariage, tous ceux qui essaient le mariage, ça ne marche pas. Où ça a été livré à la mort, à la mort, à la mort, chaque année il faut enterrer quelqu'un. Où ce sont les familles, les alliances ont destiné ces gens-là à l'échec. Vous voyez des personnes intelligentes, mais ça ne réussit pas. Parce que ce sont les effets des alliances qui ont déjà tracé un chemin qu'on appelle la destinée. Et ce chemin-là, vous pouvez tout faire, vous reviendrez toujours sur ce chemin-là. C'est comme une force, c'est comme une puissance qui nous ramène là. Parce que c'est le chemin tracé de la destinée qui est rattachée à l'alliance de vos familles. Mais moi, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alliances de nos familles, mais ce Christ dont nous parlons, lui aussi, il est venu avec une alliance. Et cette alliance qu'il est venu apporter, c'est la nouvelle alliance à travers son sang, une alliance également qui va influencer sur le cours de votre histoire. Une alliance qui va vous changer de voie. Il n'y a qu'une alliance qui peut changer notre alliance. Il n'y a qu'une loi qui peut remplacer une autre loi. Par nos forces, on ne peut pas sortir de la destinée de nos parents. Mais Christ nous repositionne. Là où tu n'arrivais pas avec Christ, il te met sur un chemin nouveau. Découvrons Matthieu 16. Un homme qui, quand il a rencontré Christ et quand Christ l'a visité, il y a quelque chose qui a changé. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, ils ont parlé dans votre famille, mais moi je vous dis qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut sortir de ta vie. Matthieu 16, verset 17. D'ailleurs, on va commencer au verset 15. Jésus pose la question à ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il appelle par le nom de son père. Il est le fils de son père. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est en train de parler à Simon, fils de Jonas, un enfant qui est né dans une famille de pécheurs, dont le père s'appelait Jonas. Les enfants ont été élevés, éduqués dans l'esprit de la pêche. Pierre et André ont suivi le même rythme que la famille qui s'était destinée à être des pêcheurs de poissons. Il s'appelait Simon, qui veut dire le roseau, l'instable. Maintenant, je suis l'appelle par son nom naturel et familial. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Maintenant, il continue en disant quoi? En disant, il dit ceci. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a reçu la révélation de Christ. Qui est Jésus? Je viens de terminer un séminaire hier où j'étais en train de parler des raisons majeures qui poussent Dieu à se révéler dans nos vies. Et je leur ai dit, frères et sœurs, Dieu se révèle d'abord parce qu'il veut que nous puissions prendre conscience de son existence, c'est-à-dire qu'il est. Ça commence par là. Parce que s'il n'y a pas une prise de conscience de qui il est, tout ce que nous faisons, ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que sa parole éclaire ceci, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire premièrement que Dieu existe. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord de qui il est. C'est-à-dire la révélation de « Je suis ». Parce que quand vous n'aurez pas la révélation de « Je suis », c'est-à-dire le Christ, vous allez servir Dieu à un moment donné, vous allez changer de chemin. Il faut que nous arrivions à comprendre qui il est, c'est-à-dire qui est le « Je suis » là. Or, vous ne pourrez pas connaître Dieu en dehors de la révélation. Et la révélation est une initiative divine. C'est Dieu lui-même qui vient montrer aux hommes qui il est. Voilà pourquoi, lorsque les disciples, Jésus leur pose la question, mais qui suis-je? Ils ont discuté entre eux. Mais lorsque Pierre parle, Pierre n'a pas donné la réponse. Pierre n'a pas répondu parce qu'il a réfléchi. C'est pas son intelligence, c'est pas son discernement qui ont permis à Pierre de comprendre qui était Jésus. Il a reçu la révélation. C'est pourquoi il a dit, tu es heureux parce que ce que tu veux me dire, c'est mon Père qui te l'a révélé. Mon Père t'a révélé qui je suis. C'est pourquoi Pierre a dit, tu es le Christ. Nous devons comprendre ça parce que la Bible dit que c'est un mystère. Quand la Bible parle de mystère, c'est qu'il ne faut pas penser à la légère, on dit que c'est un mystère. Donc vous ne pouvez pas laisser passer ça, vous lisez vos Bibles, on vous dit que c'est un mystère et vous négligez. On dit même que c'est un mystère. Christ dans l'homme. C'est un mystère. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est le Père qui révèle. Et maintenant, verset 18, il dit, et moi? Parce que ton Père t'a appelé Simon. Ta famille avait une destinée de pêcheur de poissons. Tu t'appelles Simon le roseau, Simon l'instable, celui dont la vie n'est pas fiable, où il n'y a pas toutes les assurances. Mais moi, il dit moi qui parle, c'est Christ. C'est le Christ qui a été saisi dans la révélation par Pierre. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Amen. Jonas t'a appelé Simon. Jonas t'a incorporé dans l'alliance de sa famille. Cette alliance vous a destiné à être des pêcheurs de poissons. Mais moi, je te dis que tu es Pierre. Je te renomme. Je change ton histoire. Je change ta destinée. Je te change de nom. Et il n'y a que lui qui peut changer ça. Il n'y a que lui qui peut changer les noms, les destinées, les caractères. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Tu étais Jonas, l'instable. Maintenant tu t'appelleras Pierre, le roc, celui qui est stable. La stabilité de nos vies ne pourra venir que de ce Christ-là que vous devez connaître. Sinon vous allez tourner, vous allez faire des années, vous allez tourner. Mais celui qui a connu Christ, il a rencontré le rocher des âges. Alléluia. Sa foi est sur ce rocher-là, il sera inébranlable. Parce que ce n'est pas possible, celui qui a mis sa confiance en Dieu, Dieu ne peut pas le décevoir. Alléluia. Celui qui a bâti sa vie sur le roc, qui est Christ, ne peut pas être ébranlé. Parce que nous avons compris qui il est. Amen. Christ. Qui est-il? C'est pourquoi dans nos communautés chrétiennes, on parle de Jésus, on chante Jésus, mais on ne le connaît pas. Ils étaient disciples, ils étaient apôtres, mais il leur a posé la question, je suis qui? J'aime bien cette histoire parce qu'à des moments, je me dis, mais Seigneur, la question que tu poses, là, elle peut être bête. Comment ce sont tes disciples, tes apôtres? Tu leur poses encore la question, je suis qui? Qui suis-je? Mais il a dit, qui suis-je? Dans le qui suis-je là, c'est justement pour que nous arrivions à l'évidence de qui il est. Frères et sœurs, vous ne pourrez pas bâtir votre vie chrétienne en dehors de la révélation de qui il est. Dieu veut que nous puissions comprendre qui il est. Tant que nous ne comprenons pas qui il est, nous allons être toujours frustrés, décroisés pour n'importe quoi. Nous cherchons la main de Dieu, nous cherchons les œuvres de Dieu, mais nous ne connaissons pas la personne de Dieu. Alors que celui qui fait, celui qui agit, c'est celui qui est. Celui qui n'est pas, ne fera pas. Au lieu de chercher l'être, nous cherchons le faire de Dieu. Nous devons connaître qui il est. C'est pourquoi Jésus leur a posé la question, qui suis-je? Est-ce que vous, depuis tout ce temps-là que vous êtes avec moi, est-ce que vous avez compris qui je suis? Certainement que je pourrais poser la question ce matin à chacun de nous. Ça fait longtemps que vous marchez, que vous servez Dieu, que vous priez le Seigneur. Mais est-ce que vous savez qui il est? Hier encore, je disais dans la clôture de mon séminaire, même dans nos adorations, nous disons des choses au sujet de Dieu, mais quelquefois des choses que nous ne comprenons même pas. On est là en train de dire, oh Seigneur, tu es le lit de la vallée, tu es le narcisse de Saron. Toi, tu sais ce que c'est. Les gens qui ont dit, tu es le lit de la vallée, là, dans leur contexte, ils savaient de quoi ils parlaient. Dans leur contexte, ils parlent de narcisse de Saron. Ils savaient ce que ça voulait dire. Dieu n'a pas besoin de chronologie spirituelle. Dieu veut des hommes et des femmes qui parlent de lui des choses qu'ils ont comprises. Pas juste des choses que tu as entendues. Non, nous devons apprendre à dire des choses qu'on a comprises.
Amen.
Parce que ces gens-là, lorsqu'ils parlaient à Dieu, ils ne parlaient pas parce qu'ils fallait parler. Ils ont expérimenté, ils ont vécu quelque chose avec Dieu.
Amen.
Et ce même Dieu-là, il n'a pas changé, il est le même. Nous l'invoquons, nous l'adorons, nous le prêchons. Donc, comme je le dis, nous ne l'adorons pas par procuration. Dis à Dieu ce que tu as compris. Qui suis-je? Ça commence par comprendre le mystère de Christ. Que c'est fini. Dieu a amené l'humanité à une autre saison. Et tant que nous ne comprenons pas que Dieu est un Dieu de saison, on va rester dans une saison au moment où Dieu est passé à autre chose. La saison où l'Esprit venait sur des gens là est révolue. La saison où Dieu choisissait des personnes particulières est révolue. Maintenant, à cause de Jésus, le voile a été déchiré, l'Esprit a été donné. Ce n'est plus l'affaire des sacrificateurs, des lévites. Non, frères et sœurs. C'est pour celui qui a la foi, pour quiconque croit.
Amen.
Et à ce moment-là, pour quiconque croit, qu'est-ce qui se passe? Christ, l'Esprit, ne vous n'êtes plus sûr. L'Esprit va venir maintenant habiter dans l'homme.
Amen.
Et c'est là maintenant que le mystère commence. L'Esprit dans l'homme. Tant que nous ne comprenons pas ce mystère de Christ en nous, on va continuer à faire le désordre. On va continuer à jouer avec notre vie chrétienne. Parce que nous n'arrivons pas à saisir, à percevoir que c'est vrai que notre raison n'arrive pas à capter. Pour votre intelligence, c'est quelque chose qui vous dépasse. Comment le Dieu qui a créé le ciel et la terre peut-il habiter en moi? Oui, même si ta raison ne comprend pas, même si ton intelligence ne saisit pas, c'est une vérité établie, arrêtée, que lorsque tu as cru en Christ, tu as reçu l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'un côté l'Esprit et Dieu. Non, l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsque tu reçois l'Esprit, c'est Dieu que tu reçois dans ta vie. Et lorsque nous comprendrons ce mystère, on ne jouera pas avec notre vie. Parce que Dieu vit en nous par son Esprit. Et cet esprit-là, c'est Christ. L'homme Jésus, qui a été conçu dans le sein de Marie, a été point. Et l'homme Jésus est devenu le Christ parce qu'il a été point par Dieu. L'Esprit de Dieu a habité dans la chair de Jésus, l'homme Jésus. L'Esprit a habité dans cette chair. Aujourd'hui, nous sommes un corps, mais l'Esprit de Dieu habite dans ce corps-là. Vous devez le savoir, Christ. Quand vous parlez du Saint-Esprit, là, vous parlez que de lui, de Christ. Parce que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Christ. Or, Christ veut tout simplement dire ce qui est un, celui qui est un, mais un de quoi? De l'Esprit.
Amen.
Donc, quand vous parlez du Saint-Esprit, en vérité, vous ne faites que de parler de lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne cessait de dire aux gens. Parce qu'à un moment donné, l'homme a la mémoire courte. À un moment donné, il est obligé de rappeler. Il leur dit, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est obligé de rappeler ça. Parce qu'à un moment donné, on oublie même ce mystère-là en nous. Mais nous ne devons pas oublier. Il dit, vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Si nous avons compris ce mystère, que notre vie est comme un temple, et que dans ce temple-là habite Dieu lui-même, mais avec notre vie-là, on ne va pas faire n'importe quoi. Tu sais pourquoi tu fais n'importe quoi? Parce que tu n'as pas compris le mystère de Christ qui vit dans le temple que tu es. Or, le temple, sur le plan naturel, doit nous parler. C'est un lieu de prière, c'est un lieu sacré, c'est un lieu d'adoration. C'est ça un temple. Mais l'homme lui dit, vous êtes comme un temple pour moi. Votre vie doit être caractérisée par le sacré, par le sérieux, la prière, l'adoration. Et aujourd'hui, on joue, on parle ce mot de Dieu, 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 on n'a aucun respect pour ce qui s'est passé. Frères et sœurs, il y a des choses qui existent, même si vous ne les voyez pas. L'existence d'une chose ne dépend pas de ce que vous la voyez ou pas. Il y a des choses qui existent que votre œil humain ne voit pas, mais qui existent. Dieu a créé le visible et l'invisible. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là. Quand tu as cru en Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. Même si ton voisin, tes parents, tes frères ne voient rien, mais je veux te dire ce matin, sur le plan spirituel, quelque chose s'est passé. De la condition, il t'a donné une position. Conditionné dans ta vie naturelle. En train de pleurer, pleurer, ma vie ne marche pas. Ça, c'est ta condition. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens dont la condition parle plus que leur position. En Christ, nous avons maintenant notre position. Avant, on n'avait pas cette position-là. Cette nouvelle position que nous avons dans les lieux célestes, c'est à cause de Christ. Mais nous sommes là seulement dans la condition. La condition, c'est ton quotidien. La condition, ce sont des réalités de tous les jours. C'est ta vie physique, là. Tu ne regardes qu'à ça. Alors que en Christ, tu as maintenant, je dis bien maintenant, une position. Or, si tu regardes à ta position, ça te permettra de ne pas céder au langage de ta condition. Parce que tu auras la foi que Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Tu auras la foi que je suis encore dans un processus de développement, de transformation avec Dieu. Tu auras la foi que ta fin n'est pas conditionnée par les choses que tu vis aujourd'hui. Mais comme tu regardes à ta condition, ah, la maladie, ah, le chômage, ah, la stérilité, ah, tu regardes à ça, comment tu veux avancer avec Dieu? Il dit, mais vous avez reçu une position en Christ. Et cette position, frères et sœurs, elle doit parler plus que votre condition. Parce que lorsque la Bible parle beaucoup de notre position. Les promesses, il y a plein de vérités qui sont dans la Bible qui parlent de notre position. Hein. Il s'agit de notre position, c'est-à-dire que le nouvel homme, ce que nous sommes devenus en lui. C'est pourquoi vous avez remarqué pour les lecteurs de la Bible, dans Éphésiens, dans Colossiens, souvent il est écrit en lui, vous avez ceci. En lui et en lui. Parce que tout est en Christ.
Amen.
Rien ne peut se faire en dehors de lui. C'est pourquoi il a dit lui-même, sans rien fait. Lui-même, il a déclaré de façon solennelle. Il dit, moi, je suis le Christ. Si vous êtes déconnecté à moi, si vous n'êtes pas en communion à moi, vous ne pourrez rien faire. Une vie sans Christ, c'est comme cette vie-là, de cette eau-là, qui n'avait pas d'utilité noble. Cette vie qui n'avait pas de sens. C'est comme ce ciment instable, le roseau. Mais lorsque Christ vient, lorsque la révélation de Christ vous est accordée, frères et sœurs, je vous le dis de façon solennelle, il y a quelque chose qui doit changer.
Amen.
Et si vous voulez le changement, c'est lui seul qui est le changeur de destinée. Vous ne changerez pas de destinée en dehors de lui. Lui seul a le pouvoir de changer de destinée. Parce qu'il a dit, ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a reçu tout pouvoir, tout ce que nous aspirons, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Mais le diable a des limites, mais notre Seigneur, qui est le Christ, n'a point de limites. Il n'est pas limité. Il a les paroles de vie. Il crée à partir de rien. Il n'a pas besoin de matière pour amener les choses à l'existence. Sa parole seule est suffisante.
Amen.
Il n'est pas limité par le temps. Il est le Dieu omniprésent. Il est présent partout. Il a toute la puissance. Alors c'est ce Dieu-là, par son esprit, qui habite en vous. Il a dit, c'est un mystère. Alors ce matin, pour cette première partie, il faut qu'on prenne le temps de méditer un peu là-dessus. Christ, parce que Paul a dit, c'est un mystère parmi les païens. Un mystère parmi les païens, c'est-à-dire que Dieu a décidé de faire quelque chose de formidable, c'est que parmi les païens, ceux qui étaient normalement appelés le peuple sans Dieu, il dit, je vais faire quelque chose, je viens même moi-même habiter, pas au milieu d'eux, mais je vais habiter en eux. Israël, il a dit que j'habiterai au milieu de vous. Mais pour les païens, il dit que je vais habiter en vous. C'est pas la même chose. C'est pourquoi c'est un mystère. Avec les juifs, il était au milieu d'eux. Il était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais pour l'église, pour les païens, il dit que j'habiterai pas au milieu de vous, mais en vous. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un mystère. Et quand tu comprends cela, même si tu ne vois pas, mais c'est une réalité qui est spirituelle, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il vit en toi. C'est toi le sanctuaire royal. C'est toi le tabernacle de Dieu. C'est toi le temple de Dieu vivant. Il n'agira pas en dehors de toi, c'est en toi qu'il agira. Parce que tu deviens le lieu d'expression, de manifestation de Dieu. C'est pourquoi le monde a besoin justement de révélation. Que le Christ qui est en nous soit formé. Que le monde qui est autour, qui nous entoure, voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Oui, parce que le Christ qui est en toi, c'est lui qui fait ces changements-là. Mais j'aimerais vous dire que c'est un processus. Mais nous bénissons Dieu parce que nous sommes dans un processus de développement. Parce que la finalité, c'est quoi? La Bible dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Notre destinée, c'est d'être comme lui. Mais nous ne pouvons pas être comme lui si sa semence n'est pas en nous. Nous portons la semence de Dieu. Son esprit qui est en nous. Et c'est par cet esprit qui est en nous qui nous permettra de nous développer pour atteindre la stature parfaite, la maturité en Christ.
Alléluia.
Vous ne deviendrez pas sans lui. Vous ne pourrez pas être que Dieu attend de vous sans lui. Tout se passe en lui, avec lui et pour lui. Il est le centre de toute vie. Et tout se construit autour de lui. Je vais vous inviter à se mettre debout et on va prier le Seigneur.
Christ est l'espérance.
Comprenons qui est Christ. Si tu comprends ce mystère-là, tu ne vas plus banaliser la vie chrétienne. Les chrétiens banalisent leur vie. On banalise tout parce qu'on n'a pas compris qu'on est dans un mystère. Toi-même faisais un mystère que ceux qui t'entourent ne comprendront jamais. Mais nous ne nous prenons pas au sérieux parce que nous n'avons pas compris la dimension du mystère. Nous sommes un mystère. Nous sommes un mystère. Tu es un mystère. C'est normal que les gens ne te comprennent pas parce que tu es un mystère. Comment vous voulez comprendre un mystère? Nos vies là, les gens qui ne connaissent pas Dieu ne comprendront jamais notre manière de vivre. Parce que nous sommes un mystère. Et quand tu prends conscience, c'est pourquoi je dis que, frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il faut qu'il y ait, ça doit commencer par une prise de conscience, une prise de conscience de Dieu lui-même d'abord, qui en sert, qui en adore. On doit prendre conscience de qui il est. Tout se construit là. L'adoration, le service, les sacrifices, les renoncements, toutes ces choses-là, c'est à cause de ce qu'il est. Dieu est tellement important, alors tu es prêt à faire les sacrifices. Dieu est tellement important, tu es prêt à renoncer. Parce que tu as compris sa valeur et son importance. Nous jouons avec Dieu parce qu'on n'a pas compris qui il est. Ce n'est pas un bout de bois. Ce n'est pas une image taillée, il n'est pas une statuette. Il est le Dieu Esprit qui a créé le ciel et la terre et qui est notre Créateur. Amen. Ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres, ce n'est pas le Dieu qu'on invoque dans nos différentes tribus. Non, nous parlons du véritable. Et ce véritable-là, il faut le prendre au sérieux. Parce qu'il est. Ce n'est pas, on ne joue pas aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Les choses de Dieu sont trop sérieuses. Parce que Dieu est sérieux. Si Dieu est sérieux, toi également, sois sérieux.
Amen. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi.
Seigneur, même que je suis.
à toi.
Je veux comprendre, je veux apprendre.